Il est 8h.
Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne pour faire les Jeux. On n'attend que ça, tout le monde est à fond.
Elle a hâte, Clarissa Gbenienou, de débuter ses JO de Tokyo. La judokate est porte-parole de la délégation française. Cérémonie d'ouverture tout à l'heure à 13h, heure de Paris. Les débats se sont terminés au petit matin. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi anti-Covid qui prévoit l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. La France, de nouveau la cible de menaces terroristes depuis le début du mois. La plus grande vigilance est demandée au préfet pour cet été. C'est une information Europe 1. Et puis Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle. La deuxième à droite à se déclarer après Xavier Bertrand. Juste après le journal, l'invité politique, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, il a bataillé comme les autres députés jusqu'au bout de la nuit sur le projet de loi sanitaire. Débat bouclé à 5h40 ce matin. Alors est-ce du contrôle parlementaire ou de l'obstruction? Éric Coquerel à ce micro. Rendez-vous 8h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h. Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Théo, bonjour à tous. C'est le jour J. Les Jeux Olympiques s'ouvrent officiellement aujourd'hui à Tokyo. Plus que quelques heures, 5 très précisément avant la cérémonie d'ouverture qui débutera à 13h, heure française. C'est l'empereur du Japon lui-même qui déclarera les Jeux ouverts. À Tokyo, 378 athlètes défendront les couleurs tricolores dans plus de 30 sports différents. Et la France compte sur ses têtes d'affiche pour gagner des médailles, Corinne Boulou.
Oui, il y a évidemment Teddy Riner, le double champion olympique qui visera un triplé en or au pays du judo, malgré une blessure au genou qui l'a privé d'entraînement pendant 2 mois. La judoka Clarissa Gbenienou, vous venez d'en parler, porte-drapeau à Tokyo, visera un premier titre après sa médaille d'argent il y a 5 ans. L'or, c'est aussi ce que viennent chercher la championne olympique de Rio en planche à voile, Charline Picon, le karatéka Steven Dacosta ou les spécialistes de VTT, Loana Lecomte, 21 ans pour ses premiers jeux, et Pauline Ferrand-Prévot. Le champion du monde de triathlon, Vincent Luis, ambitionne lui aussi pour ses 3e jeux la plus haute marge du podium.
C'est clair que moi je me présenterai sur la ligne en ayant comme ambition de gagner la course. Là moi j'arrive un peu au sommet de ma carrière. Je sais que je suis en forme. J'ai passé un super hiver. Mais ouais, c'est clair que je suis favori, je fais partie des favoris. Mais la pression est différente par rapport aux 2 dernières Olympiades, puisque maintenant j'arrive avec un palmarès qui est plus étoffé, donc j'ai moins peur de l'échec.
L'échec, Corinne, c'est aussi un mot banni pour d'autres champions français en quête du Graal olympique.
Oui, les vice-champions olympiques des Jeux de Rio, par exemple, qui viseront un nouveau podium à Tokyo. Parmi eux, Kevin Mayer, le décathlonien, la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon pour ses 5e JO, le perchiste Renaud Lavillenie ou le nageur Florent Manoudou. Ils sont au Japon pour compléter leur fabuleux palmarès. Et puis la délégation tricolore comptera aussi notamment sur l'escrime ou sur ses sports co, le hand, le basket et le volley à Tokyo.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1.
8h03, la politique. Après une nuit de débat, l'Assemblée nationale a donc donné son feu vert à l'extension du pass sanitaire.
À 117 voix pour, 86 contre, le texte est désormais entre les mains des sénateurs. Sans surprise, les députés ont approuvé l'obligation vaccinale pour les soignants, mais le gouvernement a aussi obtenu gain de cause sur 2 points qui faisaient polémique, Hélène Terzian.
Oui, d'abord la question du licenciement d'une personne qui refuserait de présenter son pass sanitaire alors qu'elle travaille dans un établissement qui reçoit du public. Ce licenciement sera donc possible. La mesure a bien été votée, malgré de vives critiques de l'opposition et même de certains députés de la majorité comme Paco Morupin.
J'ai aussi une question, monsieur le ministre. Comment, dans l'écriture actuelle du texte, cela se conjugue avec l'article du Code du travail qui dit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
Mais cette mesure a donc bien été adoptée au début de la nuit. Et puis à 5h du matin, à la toute fin des discussions, le gouvernement a aussi obtenu l'obligation du pass sanitaire dans les hôpitaux et les EHPAD. Les patients non urgents et les visiteurs devront donc bien le présenter à l'entrée. Les députés avaient d'abord retoqué cette mesure, mais c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est monté à la charge.
Si je devais résumer ce qui a été voté, il faut un pass sanitaire pour aller au resto, mais il ne faut pas de passe sanitaire pour aller à l'hosto, ce qui est totalement contradictoire avec l'esprit même du passe sanitaire.
Le texte doit maintenant arriver au Sénat avec une majorité à droite. Là aussi, les débats devraient être houleux. Députés et sénateurs devront ensuite se mettre d'accord en commission mixte paritaire. Le gouvernement espère que le projet de loi sera adopté d'ici la fin du week-end.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Le passe sanitaire pour tenter d'enrayer l'épidémie, c'est l'espoir du gouvernement. Près de 22 000 nouveaux cas de Covid recensés en 24 heures. C'est un niveau inédit depuis le mois de mai.
La photo variant Delta. Au début du mois, l'Espagne et surtout la Catalogne étaient l'épicentre de la reprise de l'épidémie en Europe. Mais depuis le début de la semaine, la situation s'améliore, Henri Delaguéry.
Et oui, pour la première fois depuis un mois, l'épidémie recule en Catalogne. Les nouveaux cas baissent de façon significative et le pic de cette dernière vague a été dépassé en milieu de semaine. Et le chercheur Gérard Jiménez analyse quotidiennement les données Covid dans la région.
Ça fait un peu plus d'une semaine que les cas positifs chez les jeunes, les moins de 30 ans, diminuent drastiquement. Même si c'est vrai qu'on a eu des taux d'incidence très élevés. Et puis, un nombre d'hospitalisés comparable, on a une mortalité 10 fois inférieure à celle des autres vagues. Et cela, on ne peut que l'attribuer au vaccin.
Alors ici, tout le monde veut se faire vacciner. Les autorités n'ont pas besoin de battre le rappel. 53% des Espagnols sont entièrement vaccinés. C'est 8 points de plus qu'en France. Même si la décrue n'a pas encore commencé dans les hôpitaux, il reste sous pression. Ce changement de tendance est sans doute une bonne nouvelle pour le sud de l'Hexagone.
Les gens qui vivent dans les Pyrénées-Orientales peuvent entretenir de l'espoir. Si, comme ça semble le cas, ils se confirment qu'ils ont 2 semaines de retard sur nous, alors la France suivra la même dynamique.
Malgré cette situation qui s'améliore, le couvre-feu ici entre 1h et 6h du matin, mais aussi l'interdiction de se réunir à plus de 10 personnes seront maintenues en Catalogne jusqu'à la fin de l'été. Le masque, lui, n'est pas obligatoire à l'extérieur, mais tout le monde, ou presque, le porte quand même.
Merci Henri Delaguéry, correspondant Europe 1 en direct de Barcelone.
Et en Australie, en revanche, la situation est critique. La flambée épidémique relève de l'urgence nationale, préviennent les autorités locales à Sydney, qui demandent l'envoi en urgence de vaccins et de ressources.
8h07, c'est une information Europe 1 que nous vous dévoilons ce matin. La plus grande vigilance a été demandée aux préfets concernant des risques d'attentats pour cet été.
Gladys Laffitte, dans ce document que vous avez pu consulter, il est explicitement fait état d'une menace terroriste toujours élevée.
Ah oui, c'est une note du cabinet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, diffusée aux préfets il y a 2 jours. Il leur est demandé de maintenir à un haut niveau leur vigilance tout au long de l'été, dans le cadre de la reprise partielle des activités économiques et culturelles. Si cette vigilance est demandée, c'est parce que la France est de nouveau la cible de menaces, depuis mi-juillet, d'une organisation terroriste sur Internet. Le président de la République et le ministre de l'Intérieur sont explicitement visés et cités, indique la note. Les caricatures de Mahomet sont au cœur de ce message qualifié de virulent, tout comme à l'automne dernier, en plein procès des attentats de janvier 2015. Les autorités craignent que la menace endogène soit stimulée par ces appels, une menace qui viendrait de notre sol, qui s'autonomise selon une source sécuritaire, venue de profils perméables et réceptifs à la propagande hostile à la France. De futurs djihadistes qui pourraient aussi agir à l'approche du procès des attentats du 13 novembre qui s'ouvre en septembre et doit durer 9 mois. Dans sa note, le cabinet du ministre promet l'envoi de consignes particulière à ce sujet.
Gladys Laffitte pour Europe 1.
Vous ne bougez pas, dans un instant la suite du journal de 8h avec la candidature déclarée de Valérie Pécresse à droite à la présidentielle de 2022. A tout de suite.
Europe Matin, le 6-9, Théo Manval.
8h09, la suite du journal d'Émilie Dez et Valérie Pécresse qui se lance dans la course à la présidentielle.
Fraîchement réélu à la tête de la région Île-de-France, l'ancienne ministre jouera le jeu de la primaire. Elle se pose donc en concurrente de Xavier Bertrand, également candidat et président de la région Hauts-de-France. Qu'en pensent les militants dans le Nord, justement ? Un reportage de Maximilien Carlier.
Dans le siège de la Fédération du Nord, les Républicains, 3 jeunes militants assis sur un canapé, pas surpris par la candidature de la présidente de la région Île-de-France.
Je pense que c'était un secret de polichinelle.
Bastien Dauphin est responsable des jeunes républicains dans le département.
Valérie Pécresse avait depuis de nombreux mois fait part de ses intentions de se présenter à la présidentielle. Elle s'inscrit tout de même dans une démarche collective.
Une primaire, c'est ce qu'elle souhaite, oui, en effet. À l'inverse de Xavier Bertrand, et ici dans les rangs LR, les avis sont partagés.
C'est aux militants de décider, je pense. Moi, je soutiendrais plutôt une primaire, oui, effectivement.
Moi, au contraire, justement, je suis partisan, en tout cas, du candidat naturel, et on l'a bien vu en 2017. Ça a amené pas mal de divisions avec les pro-Fillon, les pro-Sarkozy, les pro-Juppé. Moi, c'est pas ce que j'apprécie, en tout cas.
Et il faut éviter ces tensions, insistent ces militants, à moins de 9 mois de la présidentielle, sauf qu'il y a un souci de taille.
Le fait d'avoir 2 candidats, bah, ça divise, et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment une droite soudée. Donc il est évident que ça pose problème.
D'autant que l'on ne sait pas encore combien d'autres candidats pourraient se présenter chez les Républicains. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et puis on termine ce journal en musique. Emily Dez, cela fait 10 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, Amy Winehouse est décédée. La chanteuse britannique avait seulement 27 ans.
Amy Winehouse qui laisse derrière elle seulement 2 albums studio, des opus qui ont marqué l'histoire de la musique. Selon le spécialiste rock Philippe Manœuvre, personne n'a égalé son talent depuis.
Amy Winehouse, c'était une grande chanteuse soul. En fait, c'était la nouvelle Aretha Franklin. Elle avait cette voix qu'on adore, c'est-à-dire un peu pincée, des chanteuses pop des années 50-60. Et c'était ça la merveille. C'était que sans nostalgie, on avait une jeune fille de 20 ans qui chantait exactement comme les Ronettes ou comme les Supremes. Qui ramenait un peu cette ambiance merveilleuse de l'époque des groupes de filles, du début des années 60. Et c'est tout ça qui a disparu avec elle. Et c'est horrible à dire, mais ça a été... elle a rejoint le club des 27, hein, avec Kurt Cobain, avec Brian Jones, c'est Jimi Hendrix et Janis Joplin. C'est vraiment abominable, parce que c'est les grands génies de la musique. Amy Winehouse, c'est la tragédie qui était au rendez-vous, mais elle, c'était un tel talent que ça ne pouvait pas être autrement.
Philippe Manœuvre au micro Europe 1 d'Angèle Châtelier.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Emily Dez. Il est 8h12.